Laudetur Jesus Christus.
Ouverture aujourd'hui à Washington du procès en destitution de Donald Trump. Le président américain ne sera pas présent à la première audience consacrée à l'établissement des règles de procédure. Le pape envoie un message au Forum économique mondial de Davos dans lequel il rappelle l'importance de prendre en compte l'écologie intégrale. On en parle avec Monseigneur Dufay, le secrétaire du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Le maréchal Haftar, sommé par les États-Unis de lever toutes les entraves à la production et à l'exportation de pétrole, une mesure qui vise à desserrer l'étau autour du gouvernement de Tripoli, privé de ressources financières. Vladimir Poutine promet un large débat autour de ses propositions de réforme de la Constitution. La mesure la plus emblématique est celle du renforcement du rôle du Premier ministre.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. Un vote historique dont on connaît déjà l'issue à Washington, début dans une heure du procès en destitution de Donald Trump. Troisième président américain seulement à subir une telle procédure. Le milliardaire qui n'est pas appelé à comparaître avait pris l'avion hier pour le Forum économique mondial de Davos. Mais le Sénat, lui, va être plein à craquer. Les élus de la Chambre haute, dont une majorité de républicains, auront ainsi son destin en main. À Washington, Loïc Loury.
Un beau ciel bleu, 0 degré au thermomètre et à peine quelques militants à midi aux abords du Congrès. Pas de quoi présager un procès historique et un Sénat transformé en tribunal extraordinaire. John Roberts, le juge en chef de la Cour suprême, va diriger la procédure avec, face à lui, 100 sénateurs en guise de jury. Impossible pour eux de s'absenter. Dans chaque camp, les porte-voix de ce procès hors normes sont connus. 7 élus de l'opposition vont servir de procureurs. Le président, lui, sera défendu par près de 10 avocats, parmi lesquels notamment Kenneth Starr. C'est lui qui avait mené l'enquête sur la liaison du président Bill Clinton avec Monica Lewinsky. Pour le reste, le procès pourrait aller vite. Selon le souhait des républicains, les règles édictées par Mitch McConnell, leur leader, doivent être votées aujourd'hui. D'ores et déjà, les démocrates dénoncent une procédure truquée. Ils en compriment la durée, disent-ils, pour que les audiences durent tard quand les Américains ne regardent pas. Car l'issue de la procédure ne fait aucun doute. Le camp de l'actuel président domine ce Sénat et acquittera Donald Trump. Restait aux démocrates l'espoir d'écorner un peu son image avant la présidentielle. Washington, Loïc Loury, Radio Vatican.
Donald Trump est donc à Davos pour le Forum économique mondial. Le président américain n'a pas tari d'éloges sur les performances de l'économie américaine, dont tous les indicateurs sont au vert. Il en a profité pour fustiger les prophètes de malheur du climat et leurs prédictions d'apocalypse, selon ses mots. Rien d'étonnant quand on sait que Donald Trump est un climato-sceptique notoire. Dans l'Assemblée, pour l'écouter et pour lui répondre, la Suédoise Greta Thunberg, pour qui il faut paniquer et agir pour l'amour de nos enfants. Elle a appelé à cesser immédiatement tous les investissements dans l'exploration et l'extraction d'énergies fossiles et à cesser toutes les subventions aux énergies fossiles maintenant. Donald Trump s'est également prononcé sur un autre sujet, celui d'un accord commercial avec l'Union européenne à l'occasion de son tête-à-tête avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les discussions se poursuivent dans les domaines du commerce, de la technologie, de l'énergie et d'autres sujets. Parallèlement à cela, la France et les États-Unis tiennent à éviter toute escalade concernant le projet de Paris de taxer les entreprises technologiques. Le gouvernement français suspend en ce sens les premiers encaissements prévus cette année en attendant un accord avec les Américains. Davos, le pape y a fait lire un message par la voix du cardinal Turkson, le préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. François rappelle dans son texte que face aux bouleversements géopolitiques, comme aux changements qui affectent l'économie et le monde du travail, notamment avec l'apport de la technologie numérique, la considération primordiale à ne jamais oublier est que nous sommes tous membres d'une seule et même famille humaine. Il insiste aussi sur la notion d'écologie intégrale, mise en avant dans son encyclique Laudato Si. Monseigneur Dufay, secrétaire du Dicaster pour le service du développement humain intégral, revient sur l'importance de cette notion.
Le grand défi de Davos, c'est de considérer que l'écologie est une chance en économie. Et donc la question aujourd'hui, c'est de passer d'une écologie morale, d'une écologie comme intention morale, on voudrait bien, faire mieux pour prendre soin de la planète, à une écologie économique et politique, c'est-à-dire à une écologie qui se donne les moyens financiers de prendre soin de cette planète, et de prendre soin de la vie et de l'avenir de la vie sur cette planète. Et c'est parce qu'il y aura des investissements, parce que nous gagnerons à faire cette option d'une écologie économique ou d'une économie écologique, qu'on pourra avancer. Mais on ne peut pas dire que pour changer le mode de développement et pour avoir un développement écologique et pour avoir un développement intégral, on va faire payer encore ceux qui sont les plus pauvres. Ça n'est pas possible. Le cri de la terre et le cri des pauvres impliquent aujourd'hui des décisions qui sont des décisions en termes d'emploi, en termes d'activité économique, mais aussi en termes de partage des revenus, en termes de partage des bénéfices et en termes de justice sociale. L'écologie est aussi une manière de penser la justice sociale.
Monseigneur Dufay, le secrétaire du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Les pays asiatiques renforcent leur contrôle pour tenter d'enrayer la propagation du nouveau virus semblable au SRAS. 6 personnes ont déjà perdu la vie en Chine à cause de cette maladie transmissible d'homme à homme. Près de 300 cas ont été recensés dans le pays. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, se réunira demain pour déterminer s'il convient de déclarer ou non une urgence de santé publique de portée internationale. L'ambassade des États-Unis en Libye a appelé aujourd'hui à la reprise immédiate des opérations pétrolières en Libye. Depuis samedi, les forces du maréchal Haftar bloquent en effet la production et l'exportation d'or noir, une décision prise par l'homme fort de l'Est libyen au mépris de l'accord de cessez-le-feu approuvé ce week-end à Berlin. Apparemment, l'enjeu de la crise libyenne devient plus économique que militaire. Les explications d'Adélaïde Patrignani.
Ce que le maréchal Haftar ne peut obtenir par les armes, il cherche à l'obtenir par le pétrole. L'arrêt des exportations d'or noir doit être vu comme un signe de protestation d'après les pro-Haftar. Une protestation visant l'intervention turque en Libye, venue soutenir le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Jusqu'à la semaine dernière, les combats entre le GNA et l'armée nationale libyenne autoproclamée n'avaient pas eu d'impact sur le commerce du pétrole. Mais c'est désormais la paralysie pour la plupart des sites pétroliers de l'Est et du Sud-Ouest. Résultat, une chute de la production de 1,3 à 1,2 million de barils par jour. La compagnie nationale de pétrole prévoit même 72 000 barils par jour si le blocage se prolonge. Une situation qui préoccupe les États-Unis. La suspension des opérations, a expliqué l'ambassade américaine, risque d'aggraver l'urgence humanitaire en Libye et d'infliger de nouvelles souffrances inutiles à la population. En effet, le pétrole représente quasiment l'unique source de revenus pour le gouvernement de Tripoli. Mais les inquiétudes de Washington sont aussi d'ordre économique, étant donné la hausse du prix du brut. Toutefois, la communauté internationale ayant du mal à parler d'une seule voix, pas sûr que le maréchal Haftar réponde promptement aux injonctions américaines.
Adélaïde Patrignani. En France, début aujourd'hui de l'examen par les sénateurs du projet de révision des lois de bioéthique. La commission spéciale du Sénat a déjà remanié le texte, adopté en première lecture par les députés. La principale mesure du projet, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, divise la majorité de droite du Sénat. Le Kremlin promet un débat sur les amendements à la Constitution russe proposés par le président Poutine. Une réforme annoncée mercredi dernier qui se fera à un rythme accéléré. Cette révision constitutionnelle a conduit à la démission du Premier ministre Dmitri Medvedev et de son gouvernement. La mesure la plus importante concerne en effet le chef du gouvernement. Mesure sur laquelle revient Jean de Glignasti, il est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de France en Russie.
C'est une réforme qui, pour l'essentiel, vise à donner plus de pouvoir à la Douma, c'est-à-dire à l'Assemblée, en lui donnant la charge d'élire le Premier ministre responsable devant elle. En ce moment, à l'heure actuelle, c'est le président qui désigne le Premier ministre, désignation qui est entérinée par la Douma. Là, ça va être l'inverse, c'est la Douma qui va choisir le Premier ministre et le président sera obligé d'entériner ce choix. Donc ça, c'est le cœur de la réforme. Alors ensuite, il y a d'autres éléments qui sont sous-jacents, qui n'ont pas été précisés. Il y aurait sans doute une petite diminution des pouvoirs du président, ça a déjà commencé avec l'élection du Premier ministre. Il y a le renforcement des pouvoirs du Conseil d'État, mais pour l'essentiel, c'est la question de la responsabilité de l'Assemblée dans la désignation du Premier ministre et du gouvernement.
Des propos recueillis par Marine Henriot. Poursuite de la tournée européenne Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, celui qui a été reconnu par une cinquantaine de pays, président par intérim du Venezuela, devait être reçu aujourd'hui par le Premier ministre britannique avant de se rendre demain à Bruxelles pour y rencontrer le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Il doit jeudi participer au forum de Davos. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 8h30, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente soirée à toutes et à tous.